Chapitre 36. Les araignées sont le plus souvent des chasseurs solitaires. Tiré de l'article Spider Woman, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. Henrietta était morte. Il l'avait retrouvée sur le dos dans l'unité de soins intensifs, ses pattes mutilées, toutes recroquevillées sur son abdomen. Il la poussa doucement du doigt. Comme un enfant touche un animal sans vie longtemps après qu'il est trop tard. Henrietta ne bougeait pas. Il essaya encore une fois. Elle ne bougerait plus jamais. Il s'assit dans la salle de bain plongée dans la pénombre et eut un instant le souffle coupé. Était-ce à cela que ressemblait le chagrin? Une sensation dure et oppressante dans la poitrine? Le souffle court? Un désir irrépressible de hurler. Il pressa ses mains sur ses yeux. Cela ne lui procura aucun soulagement. Il sentait la pression monter inexorablement. Et sans raison, il repensa à ce bambin, celui que le burgerman l'avait forcé à enterrer sous l'azalée. Sa gorge s'enflamma, ses épaules tremblèrent, et il eut horreur de tout cela, de la violence de son chagrin, du bruit affreux de ses sanglots, de l'impuissance de ses larmes pitoyables. La police n'avait jamais retrouvé le corps de l'enfant. Il le savait parce qu'il vérifiait de temps à autre sur Internet. Ce garçon était toujours porté disparu, tout comme lui-même, comme Aaron, comme le petit nouveau, Scott, et des dizaines de milliers d'enfants chaque année. Son frère avait eu raison. Il y avait tant de méchants garçons que le burgerman devait réduire en bouillie. Alors c'était ce qu'il faisait depuis des décennies maintenant. Broyer, broyer, broyer. Engloutir des vies par dizaines, des innocents et des moins innocents. Peu lui importait. Il prenait parce que c'était seulement lorsqu'il détruisait la vie des autres qu'il n'avait pas peur. La fin était proche. Il la sentait venir. Depuis 3 heures, les fréquences de la police bruissaient de rapports sur une fusillade dans l'hôtel historique du Smith House. Le mort n'était pas un agent fédéral, mais un jeune homme non identifié. Aaron avait échoué. L'agent l'avait pris de vitesse, ou Dieu sait quoi, cela n'avait guère d'importance. Henrietta était morte, Aaron était mort, et le plus jeune garçon avait disparu dans la maison en bas. Il ne restait que Ginny. Et ce n'était qu'une sale menteuse. Si la police la trouvait en premier, elle le dénoncerait. Trahir, c'était la spécialité des femmes. Il fallait qu'il réfléchisse, qu'il échafaude un plan. Mais d'abord, évidemment, il fallait qu'il s'occupe d'Henrietta. 3h05 du matin. Il regarda distraitement l'horloge, et lorsqu'il remarqua l'heure qu'il était, l'idée lui vint. Il sut exactement ce qui devait arriver. Il posa Henrietta au milieu de son lit. Puis il s'approcha de ses étagères, où se trouvait le reste de sa collection dans plusieurs rangées de terrariums vitrés. Progressant de la gauche vers la droite, il retira tous les couvercles. Puis il passa dans la pouponnière, la chambre des araignées violonistes, celle des Pteridae. Lentement, méthodiquement, il libéra toutes les araignées jusqu'à la dernière. Puis il alla chercher une demi-douzaine de bidons d'essence dans le garage. Il commença par l'ordinateur, le plus compromettant pour lui. Puis il passa au salon, inondant les coussins du canapé, les rideaux, les bibliothèques en vulgaires panneaux de particules. Ensuite, la chambre des garçons. Après quoi, il monta vers son sanctuaire. Il aspergea le matelas sur lequel reposait Henrietta, bûcher funéraire pour une grande guerrière. Puis il retourna au garage prendre les 2 derniers bidons. Il entendit des sirènes au loin. Encore des agents de patrouille qui se rendaient au Smith House ou qui venaient le chercher. Il avait déjà passé 10 longues années dans la plus cruelle des prisons du monde. Jamais il n'y retournerait. Ils auraient dû le retrouver, se dit-il dans un nouvel accès de colère en dévissant le bouchon du bidon pour arroser encore et encore. Ces abrutis de policiers auraient dû retrouver la piste du Burgerman. Débouler dans cette première chambre d'hôtel et l'emporter héroïquement. Mais non, jamais il n'était venu. Pas une seule fois en 10 ans, même lors de l'affrontement final. Il l'avait laissé tomber. Il l'avait laissé devenir ce qu'il était devenu. Alors maintenant, il allait leur montrer. Leur montrer tout ce que le Burgerman lui avait appris à faire. Le dernier bidon d'essence était vide. Il le balança avec dégoût dans la chambre d'amis et des gouttelettes se répandirent sur sa main, remplirent ses narines d'une odeur âcre. Il entendit à nouveau les sirènes, plus proches. Il ne restait plus beaucoup de temps. Sur le palier, il dut danser sur 4 formes velues, les premières mygales échappées de leur terrarium qui essayaient de reconnaître le terrain. Il descendit les marches 2 à 2. Au pied de l'escalier, il trouva 2 autres de ses protégés, déjà engagés dans une lutte à mort, essayant de déchirer leur exosquelette coriace avec leurs crochets, les pattes sur la tête l'une de l'autre. À peine éprouvé un avant-goût de liberté que les cannibales se disputaient le territoire. « Vous n'avez encore rien vu, les filles », eut-il envie de leur dire. Mais pas le temps de discuter. Il ouvrit violemment le placard de l'entrée où se trouvait le coffre-fort qui contenait les armes. Il fit tourner le cadran d'un coup de poignet, ouvrit et examina son arsenal. Des sirènes franchissaient la crête de la colline. Un 9 mm, un Glock 40, une 22 long rifle, des boîtes entières de munitions. Il fourra le tout dans sa housse à fusil, les mains tremblantes, laissant échapper quelques cartouches. Crissement de pneus devant la maison. Bordel. L'homme attrapa son sac et se rua vers la terrasse à l'arrière. Il se souvint juste à temps, attrapa le zippo dans son pantalon et le balança. Les premières flammèches rebondirent en travers de la cuisine, lui roussirent les poils de la main, embrasèrent les gouttelettes d'essence sur sa peau. Il se donna des claques sur la main gauche avec impatience, en regardant le feu déferler dans le couloir et se précipiter dans l'escalier. Et ce n'était peut-être que le fruit de son imagination, mais il crut entendre la première araignée pousser un hurlement. Détruire ce qu'il aimait, sa spécialité. Mais il y avait encore une personne dont il allait s'occuper. Un amour qui n'était jamais mort, même après toutes ces années. Aaron avait échoué. Le Burgerman n'échouerait pas. Il mit le sac vert foncé sur son épaule et s'enfuit par la porte de derrière, tandis qu'un fourgon de police arrivait toute sirène hurlante dans l'allée, que la fenêtre en bas de l'escalier explosait sous la violence des flammes et que toute sa collection commençait à brûler. Rita était réveillée et regardait par la fenêtre lorsque la première sirène déchira le ciel. Elle ne réagit pas au bruit et resta couchée, regardant une boule orange vif s'élever au-dessus des arbres. Elle comprit tout de suite d'où venait l'incendie, la vieille demeure victorienne sur la colline. Et elle ne fut pas le moins du monde surprise de voir le garçon surgir sur le pas de sa porte, les mains dans le dos. Sans mot dire, elle rejeta les couvertures et sortit son pistolet. « Mon enfant, tu as quelque chose à voir avec ça ?»« Non, madame. »« Tu es restée ici toute la nuit ?» Oui, madame. Très bien. Alors il va venir. On ferait mieux de s'occuper des portes et des fenêtres. Le garçon sortit un couteau. Chapitre 37. Les araignées tuent à une cadence étonnante. Un chercheur néerlandais a évalué à quelque 5 billions le nombre d'araignées dans les seuls Pays-Bas, dont chacune consomme environ 1/10 de gramme de viande par jour. Si elle s'en prenait aux hommes plutôt qu'aux insectes, il ne leur faudrait que 3 jours pour dévorer la totalité des 16,5 millions de Hollandais. Tiré de l'article Spider Woman, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. Le temps que Sal et Kimberly arrivent, la maison qui correspondait à l'adresse indiquée par Ginny était engloutie par les flammes. Les pompiers s'étaient déployés et s'obstinaient avec leurs tuyaux, mais Kimberly et Sal voyaient bien que la cause était perdue. Debout au bord du périmètre, ils regardaient l'incendie orange illuminer le ciel nocturne et sentaient la chaleur du brasier sur leurs joues. Des voisins s'attroupèrent autour d'eux, attachant la ceinture de leur peignoir pour se protéger du crachin, en rejoignant les badauds qui regardaient le spectacle dans la rue. « Quel dommage !» commenta une vieille dame dont les cheveux gris étaient soigneusement coiffés en plusieurs rangées de petites bouclettes. « C'était une si jolie maison à l'époque. » « Vous connaissez le propriétaire ?» demanda vivement Sal en se rapprochant avec Kimberly. Mais la femme hocha la tête. « Je le connaissais autrefois, mais la maison s'est vendue il y a 2-3 ans peut-être. On ne voyait pas souvent le nouveau propriétaire. Et je peux vous dire qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à l'entretien de la maison ou du jardin, » ajouta-t-elle avec une moue réprobatrice. « Vous avez dit le propriétaire ?» relança Kimberly. « Je n'ai jamais vu que lui. » Un type plutôt jeune, toujours en 4x4 noir, une casquette visée en permanence sur la tête, même au plus fort de l'hiver. Il m'a paru bizarre. Pas sympathique, en tout cas. Ça, non, renchérit un autre voisin qui se tenait à quelques pas de là, en peignoir à carreaux bleus. Ma femme lui a apporté une assiette de brownies pour lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Elle l'a vu dans l'entrée, par la fenêtre sur le côté, quand elle a sonné, mais il n'a pas ouvert. Elle a fini par déposer les brownies et repartir. Vraiment un drôle d'oiseau. « Est-ce que vous auriez vu un jeune garçon ?» demanda Sal. L'homme réfléchit. « 18-19 ans ? Il sortait rarement. J'ai pensé que c'était le fils. »« Il y en a aussi un plus jeune, » intervint la première femme avec autorité. « Du moins ces derniers temps. J'en ai vu un dans le jardin. »« Je ne sais pas s'il était en visite ou quoi. » Sal et Kimberly échangèrent un regard. « Et ce soir ?»« Je n'ai rien vu, » répondit la femme. Pas avant d'entendre les sirènes et de m'apercevoir qu'il y avait le feu. Ils se tournèrent vers l'homme qui haussa les épaules d'un air contrit. Apparemment, les habitants de cette rue dormaient la nuit. Sal et Kimberly ne pouvaient pas en dire autant. Ils dénichèrent le premier intervenant arrivé sur les lieux. Un jeune adjoint du shérif qui n'avait pas grand-chose à ajouter. Il avait entendu le central ordonner à toutes les unités de se rendre à cette adresse pour y interpeller un suspect non identifié. À son arrivée, les premières torches rougeoyaient déjà aux fenêtres de la façade. Avant qu'il ait eu le temps de dire « ouf », celle-ci avait explosé et la maison n'avait plus été qu'une gigantesque boule de feu. Il avait appelé les pompiers, voilà tout. Ils essayèrent le chef des pompiers, un homme corpulent à la moustache grisonnante et à la peau tannée. « Aucun doute qu'il y a eu un accélérateur », dit-il d'une voix retentissante. Avec l'humidité ambiante, jamais le bâtiment n'aurait pris aussi vite si on ne l'avait pas un peu aidé. À l'odeur, je dirais de l'essence. Mais il faut qu'on fasse venir Mike pour en savoir plus. Mike se révéla être le spécialiste des incendies criminels dans le comté. On l'avait appelé, mais il ne pourrait commencer son inspection que lorsque le feu serait éteint et le bâtiment refroidi et sécurisé. Sans doute au plus tôt en fin de matinée, voire en milieu d'après-midi. Autrement dit, rien à signaler. Rien à faire. Allez dormir un peu, leur conseilla le chef des pompiers. Il les préviendrait quand ce serait à eux de jouer. Kimberly trouva la suggestion plutôt comique, comme si elle pourrait un jour redormir. Cette seule idée provoquait chez elle une hilarité un peu malsaine. Et elle sentit à nouveau la chaleur, respira les odeurs astringentes des isolants en feu, des fils électriques en fusion, de l'essence répandue. Elle pensa au plus jeune enfant. Et si quelque part dans ce bâtiment en flammes, un petit corps était déjà en train de se recroqueviller en position de lutteur. Elle avait échoué auprès d'un des garçons ce soir, et avec son semblable plus jeune, le remplaçant. Le feu perfora une première fois le toit, découvrit une nouvelle source d'oxygène et explosa dans un grondement assourdissant. Le vieil édifice émit un gémissement d'avertissement. Les policiers crièrent de reculer. Alors, avec un immense râle grinçant, la vieille maison se tordit, sembla en suspension pour un dernier instant, puis elle s'effondra, vomissant des braises rouges dans l'obscurité. De nouvelles flammes fusèrent dans le ciel couvert. Les voisins eurent le souffle coupé. Les pompiers repartirent à l'assaut avec une détermination renouvelée. Sal raccompagna Kimberly à sa voiture. Ils rentrèrent sans mot dire à l'hôtel, où Rainey et Quincy dormaient, où l'équipe de relevé d'indices de Kimberly travaillait, et où les ambulanciers chargeaient enfin la dépouille d'un jeune garçon solitaire. Ginny Jones avait déjà été conduite à la maison d'arrêt du comté. Une épreuve s'achevait. La suivante ne faisait que commencer. Sal emmena Kimberly dans sa propre chambre. « Il sait, » murmura Kimberly. « Dinekara sait qu'Aaron a échoué. C'est pour ça qu'il a mis le feu. Parce qu'il savait que nous arrivions et qu'il voulait effacer sa piste. » Sal ouvrit le lit, fit asseoir Kimberly, puis l'allongea avec précaution et l'aborda. « Il faut qu'on fasse quelque chose, » continua Kimberly sans désemparer. « Et s'il décidait que le plus jeune lui fait courir un risque ? Et s'il décidait de s'en prendre à nous ? Il nous faut un plan. » Sal prit un oreiller, le posa par terre. « Il vient, Sal, je le sens, il va faire quelque chose de terrible. »« Dors, » lui dit Sal. Il s'allongea sur le sol, sans couverture, rien qu'avec l'oreiller. Kimberly le regarda avec stupéfaction, puis à sa grande surprise, elle ferma les yeux et sombra dans un bienheureux oubli du monde.
Voilà ce qui se passe, expliqua le shérif Duffy peu après 11h du matin. Il avait convoqué la première réunion de la cellule d'enquête au sous-sol du Smith House. Tout le monde était là, y compris l'équipe de relevé d'indices de Kimberly et quelques adjoints du coin qui sortaient d'une nuit blanche. On ne lésinait pas sur le café, accompagné d'assiettes garnies de pain au lait et de saucissons maison. Pour une réunion de cellule d'enquête, un vrai gueuleton. Deux grands sentiers gravissent Blood Mountain. Le shérif Duffy avait étalé une grande carte de l'Institut de géologie sur la première table. Il frappa la première ligne épaisse de son doigt noir. Le Woody Gap Trail, qui part de la route 60, ou bien on peut prendre la 180 jusqu'au lac Winfield Scott et partir sur le Slaughter Gap vers Blood Mountain. Le Slaughter Gap est plus court et plus raide, ça peut être un problème si on se trimballe un corps et du matériel. Cela dit, ces deux sentiers sont sacrément fréquentés. Je ne vois franchement pas comment deux hommes pourraient y monter des cadavres à plusieurs reprises sans que personne ne remarque rien.
Il ne prenait pas un grand sentier, intervint Kimberly d'une voix fatiguée. Elle était assise à une deuxième table avec son père et Rainey, une tasse de café fumante entre les mains. Son téléphone portable était accroché à sa ceinture, toujours obstinément silencieux, bien qu'elle ait déjà laissé de nombreux messages à Mac. Elle avait dormi 3 heures, s'était douchée 30 minutes, elle avait autant que possible repris forme humaine. Sal était à l'autre bout de la pièce. Si son père ou Rainey trouvaient la chose un peu étrange ou se demandaient où elle avait passé la nuit, ils n'avaient encore fait aucune remarque. Kimberly continua.
Le garçon, Aaron, m'a dit qu'ils avaient fait leur propre chemin. Un itinéraire au-dessus des grands sentiers d'où ils pouvaient observer les autres randonneurs. Les louveteaux, ajouta-t-elle après un petit temps. Il a dit que Dinekara aimait regarder les petits louveteaux gambader.
Pour autant que je sache, les meutes de louveteaux empruntent les deux sentiers, répondit Duff avec scepticisme. Donc, on cherche toujours un départ de sentier, soit près de Woody Gap sur la 60, soit près de Slaughter Gap sur la 180.
Ou alors carrément de l'autre côté, intervint Harold, sa silhouette dégingandée penchée sur la carte.
Il dessina plusieurs lignes du doigt. Regardez, on peut arriver par ici, ici ou là. Avant de rejoindre le sommet, on surplomberait les deux sentiers. Et n'importe laquelle de ces possibilités serait moins risquée que d'essayer de marcher parallèlement à un grand sentier. Et puis, ici en particulier, la pente est douce et régulière. C'est là que je regarderais. Enfin, si je devais monter des cadavres au sommet d'une montagne.
Levant les yeux, il les surprit tous à le regarder d'un drôle d'air.
Ben quoi, je fais de la randonnée ?
Je crois que le problème, commença Rachel Childs, debout aux côtés d'Harold, c'est qu'il y a trop de voies possibles pour accéder au sommet. Il faut compter une bonne douzaine de kilomètres rien qu'entre le début de Woody Gap et le sommet de Blood Mountain. Ensuite, il y a le côté de Slaughter Gap, la jonction avec Leyte et diverses autres montées. En termes de recherche d'indices, c'est un périmètre immense sur un terrain et dans des conditions très difficiles.
Elle désigna distraitement l'extérieur
où la pluie tombait en une bruine ininterrompue.
C'est vrai,
concéda Duff. Mais s'il transportait les corps sur des civières, il devait suivre un itinéraire à peu près praticable. Il ne s'agissait pas de se frayer un chemin au milieu des buissons, plutôt de trouver la trouée adéquate au pied de la montagne.
Plus facile à dire qu'à faire, vu la densité des sous-bois, signala Rainey.
Ce sera facile d'accès, intervint brusquement Quincy. Étant donné ce que nous savons de cet individu, de sa connaissance du milieu naturel, de son goût du secret, il est tout à fait possible qu'il ait dissimulé ou camouflé le départ de la piste. Mais il est évident qu'il vient très souvent dans cette région et sur Blood Mountain. Or, l'endroit où il laisse les corps est encore plus important pour lui. Il représente ce que les spécialistes du profilage géographique appellent un lieu totémique. C'est là qu'il peut revivre ses fantasmes et apaiser son anxiété. C'est le seul endroit où il se sente puissant, aux commandes. Naturellement, il voudra retrouver ce sentiment aussi souvent que possible en retournant sur le lieu totémique.
Donc, demanda Rachel Childs sur un ton pince sans rire, il nous suffira de murmurer abracadabra et le passage secret s'ouvrira comme par magie pour nous montrer la voie vers le sommet. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve le départ du sentier. Et pour ça, on va avoir besoin d'aide.
Vous voulez la garde nationale ? Demanda Duff, renfrogné. Non, je veux une équipe de recherche entraînée. Sans doute avec des chiens.
Duff ouvrit de grands yeux. Vous croyez que des chiens renifleurs pourraient flairer une piste ?
En ce qui me concerne, je n'ai pas souvent travaillé avec eux, mais comme vous avez dit, il faut compter une bonne douzaine de kilomètres entre le départ du sentier et le sommet. Est-ce qu'un chien peut vraiment sentir les effluves d'un corps en décomposition à 12 kilomètres de là ?
Je ne sais pas, répondit Rachel Childs avec une grimace. Je ne suis pas maître chien. D'après l'agent spécial Quincy, l'individu a raconté avoir monté les corps sur une civière. Ça devrait laisser une piste olfactive.
Mais Harold, leur expert multicarte, était sceptique. Les chiens travaillent avec leur flair. Le corps humain perd en permanence des cellules de peau et des bactéries, créant une odeur que nous ne remarquons jamais, mais qui est perceptible pour l'odorat très développé des chiens. Dans le cas des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, c'est l'odeur de la décomposition, très puissante au début, mais qui diminue avec la disparition des matières organiques. Si les tombes sont trop anciennes ou trop lointaines, il se peut que l'odeur ne soit pas assez forte pour que les chiens en repèrent l'origine.
Une fois, j'ai travaillé avec deux chiens qui avaient retrouvé des ossements totalement réduits à l'état de squelette dans le lit asséché d'une rivière, répliqua Rachel. À ce stade, il ne restait plus de matière en décomposition et ça ne les a pas empêchés de trouver les ossements.
Vous aviez ciblé le lit asséché pour vos recherches ?
Oui.
Alors ceci explique cela. Les chiens travaillaient sur une zone limitée, ce qui leur a permis de retrouver l'origine d'une odeur infime. Mais pour reprendre tes propres termes, nous ne sommes pas sur une petite zone de recherche. On a toute une putain de montagne.
Des chiens de sauvetage, intervint doucement Kimberly. Laissez tomber les recherches de cadavres. Ce sont des chiens de sauvetage qu'il nous faut.
Ses deux coéquipiers cessèrent de se chamailler pour la dévisager.
Pourquoi des chiens de sauvetage ?
Demanda Rachel la première.
Je croyais qu'on cherchait des cadavres et le lieu totémique enchanté.
Ces cadavres étaient montés dans la montagne par deux hommes. Or, les vêtements de l'un d'eux sont désormais en notre possession.
Harold percuta le premier. « Il faut prendre les chaussettes du garçon, » dit-il tout excité. « Les donner aux chiens !»
Et leur demander de chercher le garçon. Avec un peu de chance, ils retrouveront sa trace et la suivront droit jusqu'aux tombes. Termina Kimberly avant de prendre une autre gorgée de café brûlant. À côté d'elle, son père s'était finalement détendu, signal tacite de son approbation.
Dieu sait quand les deux hommes ont gravi la montagne pour la dernière fois, s'interrogea Duff. Je croyais que les chiens pisteurs avaient besoin d'être sur le terrain dans les heures qui suivent.
Pas les Saint-Hubert, répondit Harold avec enthousiasme. Ils sont capables de suivre une piste vieille de plusieurs semaines, surtout quand il fait frais comme en ce moment.
C'est sûr, les labradors sont meilleurs pour la recherche de cadavres, mais rien ne vaut deux blue ticks pour pister un évadé. Dégotez-moi deux et on a nos chances.
Tous les regards se tournèrent vers le flic du coin.
Des Saint-Hubert, en Georgie, répondit Duff en souriant.
Attendez que je passe un coup de fil.